15e épisode. La dame aux scabieuses. Chapitre 1er. Après le sinistre du pont de l'Estacade. Des malfaiteurs inconnus venaient de faire sauter le pont de l'Estacade, qui traverse une profonde vallée à quelques milles en amont de la station de Rochester. Le rapide de New York avait été lancé dans l'abîme. Les wagons étaient broyés. La plupart des voyageurs morts ou atrocement mutilés. Lord Buridan, qui se trouvait avec son ami Agénor Marmousier à la gare de Rochester, s'était hâté de monter en auto et d'accourir sur le lieu du sinistre. Le spectacle qu'il aperçut était horrifiant. Des wagons avaient pris feu au fond de la vallée, et les blessés brûlés vifs dans les décombres, arrosés de l'eau bouillante de la locomotive éventrée, poussaient des cris lamentables. Quelques voitures demeuraient accrochées dans les rocs, à 20 ou 30 mètres en l'air. Cette scène de désolation était éclairée par la lune, alors dans son plein, et par la flamme rougeâtre des matériaux incendiés qui permettaient d'apercevoir les parois du gouffre. Lord Buridan, si brave qu'il fût, se sentit ému de pitié et d'horreur. Il en oublia pour un instant les raisons qui l'avaient amené dans cette vallée de la mort. Le poète Agénor n'était guère moins épouvanté. Il croyait voir se dresser devant ses yeux une vision de cauchemar ou d'apocalypse. « Heureusement, murmura Lord Buridan, que j'ai pu empêcher nos amis de prendre ce train. » Seul William Dorgan est au nombre des voyageurs. Il faut tâcher de le retrouver. » L'auto fut laissée derrière un bouquet de saules à mi-côte du chemin qui descendait au fond de la vallée, et les deux amis s'avancèrent à travers les joncs et les roseaux jusqu'à l'amoncellement des débris d'où montait un concert de plaintes déchirantes. Ils avaient à peine fait quelques pas dans cette vallée d'horreur lorsqu'Agénor poussa une exclamation. Il venait d'apercevoir le corps inerte de William Dorgan sous un enchevêtrement de roues et de traverses qui, en formant au-dessus de lui une sorte de voûte, avait dû jusqu'à un certain point le protéger. Le milliardaire portait à la tempe une profonde blessure. « Je doute fort qu'il soit encore vivant après une pareille chute, » dit Lord Buridan en secouant la tête. « Le cœur bat cependant, » dit Agénor, qui s'était approché du blessé. « Que faut-il faire ? Aidez-moi d'abord à le transporter jusqu'à l'auto, puis vous le conduirez... à Rochester ? Non, j'ai des raisons pour qu'on ne le voie pas à Rochester. » « Vous irez jusqu'à Syracuse, qui ne se trouve qu'à 1 heure d'ici, et vous le déposerez dans ma petite maison du Faubourg, en ayant soin de vous faire voir le moins possible. Clum, d'ailleurs, ne tardera pas à venir vous rejoindre. »« Cela sera exécuté de point en point. Vous pouvez être sûr que William Dorgan sera admirablement soigné. » Tous deux prirent le corps du milliardaire qu'ils eurent beaucoup de difficultés à retirer de dessous les décombres, et ils le transportèrent jusqu'à l'auto. Lorsqu'ils y furent arrivés, Lord Buridan retira des poches du blessé tous les papiers qu'elles contenaient. Un étrange projet venait tout à coup de germer dans son esprit. Il s'empara d'un carnet de chèques, d'un portefeuille contenant des pièces d'identité, de 2 cartes de circulation sur des lignes de chemin de fer et enfin de plusieurs lettres et télégrammes. Il prit aussi une bague ornée d'un brillant que William Dorgan portait à la main droite et une épingle de cravate ornée d'une grosse perle. Agénor l'avait regardé faire avec surprise. « Quels sont donc vos projets ? » lui demanda-t-il. « Il serait trop long de vous les expliquer. » « Sachez seulement que je viens peut-être de trouver le moyen d'anéantir la main rouge. Mais adieu, mon cher Agénor. Prenez bien soin de notre blessé. » L'auto démarra et se perdit dans la nuit. Lord Buridan redescendit en toute hâte vers le champ du carnage. Il examina successivement plusieurs cadavres, atrocement défigurés, jusqu'à ce qu'il en aperçût un dont la tête ne formait plus qu'une bouillie sanglante et qui était de la même taille et à peu près de la même corpulence que William Dorgan. D'ailleurs, le cadavre inconnu était vêtu avec une rare élégance. « Je crois que je ne trouverai pas mieux, » murmura l'excentrique avec émotion. Sans hésiter, il passa au doigt de l'inconnu la bague en brillant, le para de l'épingle de cravate ornée d'une perle et glissa dans sa poche intérieure le carnet de chèques, non sans avoir eu soin de se saisir de tous les papiers que possédait le défunt. Un certain monsieur Murray, directeur des aciéries de Brooklyn. Lord Buridan avait à peine fini de mener à bien cette substitution, qui eût paru suspecte à tous ceux qui ne le connaissaient pas, lorsque son attention fut attirée par de faibles gémissements qui partaient d'un Pullman car renversé sans dessus-dessous. Il s'approcha aussitôt et, s'ensanglantant les doigts aux glaces brisées du compartiment, à demi étouffé par l'âcre fumée, il parvint à retirer des débris embrasés une jeune femme d'une extrême beauté. Il fut frappé de ce fait qu'elle portait à la ceinture un gros bouquet de scabieuses et qu'elle était vêtue de deuil. À peine avait-il réussi à la dégager qu'elle s'évanouit dans ses bras, après lui avoir jeté un regard éperdu de reconnaissance. Lord Buridan porta la jeune femme jusqu'à un endroit éloigné d'une 50aine de pas et la déposa doucement sur un tertre couvert d'un épais gazon. Puis il redescendit jusqu'au ruisseau qui coulait au fond de la vallée pour y tremper son mouchoir afin d'humecter le front et les tempes de la blessée. Il aperçut alors une troupe d'hommes, armés de torches et de phares électriques, qui descendaient en hâte le sentier de la vallée. D'un coup d'œil, il reconnut parmi eux Fritz et Cornelius Kram, ce qui lui donna beaucoup à penser. Le chef de la garde Rochester, qui se trouvait aussi au nombre des sauveteurs, l'avait aperçu. Ils échangèrent quelques mots, et Lord Buridan lui recommanda tout spécialement la jeune fille qu'il venait d'arracher à la mort. Ensuite, il se joignit lui-même à la troupe des sauveteurs, parmi lesquels figuraient une douzaine de robustes hommes d'équipe, munis de pioches et de barres de fer, destinés à déblayer les décombres. Les secours furent organisés avec cette silencieuse rapidité que l'on ne trouve peut-être qu'en Amérique. Les morts furent déposés côte à côte sur le bord du ruisseau. Les blessés, provisoirement installés sur des matelas que deux fourgons de la compagnie du chemin de fer avaient apportés de la ville. Grâce aux boîtes de pharmacie, on commença à donner aux blessés les soins les plus urgents. Le nombre n'était d'ailleurs guère considérable. Dans cette catastrophe dont on garde encore le souvenir en Amérique, presque tous les voyageurs avaient été tués. C'est à peine si, sur 110, une douzaine, plus ou moins mutilée, avait survécu. Parmi ces rescapés, on retrouva une petite fille de 4 ans qui, couchée dans le filet au bagage, avait supporté le terrible saut sans une égratignure. Elle souriait, regardant autour d'elle avec étonnement, comme si elle venait seulement de se réveiller. On l'emporta pour qu'elle ne vît pas le cadavre de sa mère, décapité net par une des roues de la locomotive. Plus loin, un gentleman, à barbe blanche, pris dans un enchevêtrement d'essieux et de roues, appelait désespérément au secours. Quand on voulut le dégager, on constata qu'il avait les deux cuisses coupées au ras du ventre. Il expira presque aussitôt. Une jeune femme devenue folle tenait dans un pan de sa jupe la tête de son mari. Lord Buridan n'avait jamais vu de spectacle plus pitoyable. La tâche des sauveteurs était d'ailleurs pleine de difficultés. Il fallut faire revenir en hâte de Rochester une pompe à incendie pour éteindre le feu qui avait pris au débris des wagons et qui menaçait de tout consumer. La recherche des morts et des blessés continua, au milieu des poutrelles encore fumantes et des barres d'acier mal refroidies. Lord Buridan faisait des prodiges d'héroïsme. 2 fois, il faillit être écrasé en essayant de soulever un wagon, et il se brûla grièvement les mains en dégageant une vieille dame ensevelie sous le coussin. Cette dernière n'avait aucune blessure, et elle avait simplement failli être étouffée et grillée à petit feu. Cornelius et Fritz feignaient de déployer eux aussi un grand zèle. Mais leur véritable préoccupation n'avait rien de philanthropique. Tous deux, persuadés que le milliardaire Fred Jorgel, sa famille et les Français, leurs amis, se trouvaient dans le train, attendaient avec une impatience féroce que les cadavres de leurs ennemis fussent retrouvés. Lord Buridan, que ni l'un ni l'autre n'avait reconnu, suivait leur manège du coin de l'œil et observait attentivement leurs faits et gestes. Les deux bandits paraissaient décontenancés. Cependant, lorsqu'on apporta à l'ambulance provisoirement installée le cadavre défiguré de M. Murray et que Cornelius reconnut à son doigt la bague en diamant de William Dorgan, il ne put réprimer un geste de satisfaction. Il fouilla le cadavre et, dans une poche intérieure, trouva le carnet de chèques mis là par Lord Buridan. « En voici toujours un, » dit-il à Fritz qui, sur un signe de son frère, était accouru. « Nous ne pouvons manquer de trouver les autres d'ici peu. » Les deux bandits jugèrent nécessaire de montrer ostensiblement le chagrin qu'ils étaient censés éprouver de la mort de leur ami et associé. « Ce cher William Dorgan !» s'écria Fritz en appelant le chef de gare et d'autres personnes présentes. « Dire qu'il n'y a pas 8 jours, nous déjeunions gaiement ensemble. Pourquoi faut-il que le hasard m'ait donné la douloureuse mission d'être le premier à reconnaître le corps de mon ami ?»« Vous veillerez, n'est-ce pas ?» fit Cornelius sur un ton de circonstance, « à ce que le corps de notre ami soit mis à part, en attendant que nous fassions prévenir ses 2 fils. »« C'est encore une chance qu'il n'y ait que lui, » murmura l'honnête chef de gare en se rapprochant. « Savez-vous que toute la famille a failli y passer ?»« Que dites-vous là ?» demanda Fritz, l'œil mauvais et la face subitement crispée. « Je répète que c'est bien heureux que M. Fred Jorgel, que je connais de vue, et tous ses amis, n'aient pas accompagné M. William Dorgan comme ils en avaient l'intention. Au dernier moment, ils ont changé d'avis et ont refusé de monter dans le train. »« C'est fort heureux, en effet, » répliqua Cornelius d'un air contraint. Il avait grand-peine à ne pas trahir son dépit et sa mauvaise humeur. « C'est décidément la guigne !» s'écria Fritz avec rage, une fois que les témoins de cette scène se furent éloignés. « Nous qui croyons nous débarrasser de toute la bande d'un seul coup ?»« Tant pis, c'est à recommencer. Quel dommage ! Tout avait si bien marché !»« J'avais pris les plus minutieuses précautions. Je m'étais même muni d'un flacon spécial dont il m'eût suffi de laisser tomber une goutte sur chaque pansement pour amener le trépas instantané des survivants. Ne nous désolons pas, cependant, dit Fritz après réflexion. Nous avons un résultat. Le décès de William Dorgan va mettre notre ami Baruch en possession de sommes importantes. Un des buts que nous poursuivions va se trouver atteint. Pendant que les deux lords de la Main Rouge dissertaient cyniquement au milieu des morts et des mourants, Lord Buridan continuait à dépenser sans compter ses forces et son énergie, risquant 100 fois sa vie pour arracher de dessous la charpente disloquée des wagons des corps qui, le plus souvent, n'étaient que des cadavres. Le petit jour se leva sur cette scène de désolation. Lord Buridan était brisé de fatigue. Les brûlures et les blessures dont il était atteint le faisaient beaucoup souffrir. Il songea à se retirer, d'autant plus que sa présence devenait absolument inutile. Ceux des voyageurs qui étaient encore vivants avaient été mis en sûreté, et le nombre des sauveteurs croissait de minute en minute. Il en arrivait de tous côtés. Un fait donnera idée de l'activité américaine. On s'occupait encore à déblayer le fond de la vallée sanglante que déjà une escouade d'une centaine de charpentiers, appelés par dépêche et venus en train spécial, s'occupait de la reconstruction de l'estacade. Lord Buridan allait se retirer en profitant d'une des nombreuses voitures de louage venues à Rochester, lorsqu'il se souvint tout à coup de cette belle jeune femme qu'il avait secourue la première, au teint si pâle, aux vêtements de deuil, avec un bouquet de scabieuses à la ceinture. Oubliant sa fatigue, il remonta précipitamment vers l'ambulance provisoire que, précisément, Cornelius venait de quitter après avoir acquis la certitude que William Dorgan était le seul ennemi de la Main Rouge qui eût péri dans la catastrophe. Lord Buridan, n'apercevant plus tout d'abord la jeune femme parmi les blessés, se mit à la recherche du chef de gare auquel il l'avait recommandé. Il ne le trouva pas. Dans le désarroi, personne ne put lui donner un renseignement. Machinalement, poussé peut-être par un pressentiment, il alla jusqu'à l'endroit où avaient été déposés les cadavres. À peine eut-il jeté un coup d'œil sur les restes défigurés de ceux-ci qu'il reconnut avec une douleur indicible le cadavre de la belle jeune femme en deuil. À ses côtés, sans doute pour faciliter à ses parents ou à ses amis la tâche de la reconnaître, on avait replacé à sa ceinture le bouquet de fleurs d'un violet sombre. « La seule femme que j'aurais aimée !» balbutia-t-il douloureusement. Il effleura de ses lèvres le front glacé de la morte et s'enfuit, le désespoir dans le cœur.